Chapitre 12. Au palais. Cependant que ce drame horrible venait de se dérouler boulevard Raspail, une scène non moins dramatique avait lieu au palais de justice. Il était 1 heure. De nombreux avocats bavardaient devant le cabinet du juge d'instruction Grand Manet. Sur un banc, entre 2 gendarmes, Pierre Nervret attendait d'être introduit. Son avocat, maître Janssen, se tenait près de lui. En ces 2 jours qu'il venait de passer en prison, Pierre avait bien changé. Vieilli, parasé, sans faux col, il semblait 10 ans plus vieux. « Réagissez, ne vous laissez pas abattre comme cela !» lui disait affectueusement maître Janssen. « Vous avez tué une femme que vous aimiez, c'est fréquent. Nous voyons cela tous les jours ici. La préméditation est impossible à établir. D'ailleurs, elle n'existe pas. » Un homme comme vous est certainement incapable de préméditer un crime. Vous avez agi dans un moment de jalousie. C'est ce qu'il vous faudra expliquer à monsieur le juge d'instruction. D'ailleurs, ce premier interrogatoire n'est que de pure forme. Il vous suffira de répondre aux questions que l'on vous posera. Je ne crois pas que monsieur Grand Manet songe à aborder aujourd'hui le fond de l'affaire. À ce moment, 2 journalistes essayèrent de s'approcher du criminel, mais ils en furent empêchés par les gardes municipaux. Soudain, un éclair de magnésium aveugla Pierre. Il regarda d'où il venait. Il aperçut alors un photographe qui, tranquillement, repliait son appareil. « Je ne peux plus, je ne peux plus !» murmura le jeune homme. « Je ne peux plus supporter tout cela. Je suis devenu un monstre, une bête curieuse. » Il faut que vous soyez courageux. Je le suis, mais cela dépasse mes forces. À chaque instant, j'ai l'impression que je vais tomber, que je vais perdre connaissance. À ce moment, un garde municipal s'approcha. Vous pouvez entrer, dit-il. Pierre se leva. Pour cacher les menottes qui enserraient ses poignets, il tenait son chapeau de manière à dissimuler ses mains. Maître Seine, pour l'encourager, le prit par le bras. Un instant après, tous 2 pénétraient dans le cabinet du juge d'instruction. Monsieur Grand Manet était assis derrière un grand bureau. C'était un homme d'une 60aine d'années, à l'aspect débonnaire. Il regarda le criminel sans la moindre curiosité, tenant ainsi à montrer qu'il n'était l'esclave d'aucun préjugé et qu'aucune considération autre que la justice ne le guidait. « Asseyez-vous, » dit-il à Pierre. Comme maître Seine était resté debout, il ajouta « Vous aussi, maître !» La première partie de l'interrogatoire roula sur l'identité de l'assassin, sur son passé. Puis, malgré les prévisions de l'avocat, M. Grand Manet aborda le fond de l'affaire. « Quels sont les mobiles de votre crime » commença-t-il. « Enfin, pourquoi avez-vous tué votre maîtresse? Cela paraît, à première vue, assez étrange. » Vous l'aimiez beaucoup. Elle vous le rendait bien. C'était en outre une personne fort estimée, de grand cœur d'après ce que l'on m'a dit. Je ne saisis donc pas très bien, à première vue, à quel mobile vous avez obéi en l'étranglant. » Pierre ne répondit pas. Il semblait rêver. Bien qu'il regardât le juge d'instruction, on devinait qu'il ne le voyait pas. Si vous ne répondez pas à mes questions, poursuivit M. Grand Manet, je crains fort qu'il ne me soit difficile de me faire une opinion. Permettez, monsieur le juge, répondit maître Seine pour son client, en faisant respectueusement des gestes d'intelligence. Mais le prévenu est très ému. Dans un instant, il sera remis. C'est que, maître, je n'ai pas énormément de temps. Réagissez, réagissez, continua l'avocat en s'adressant à Pierre Nervret. « Je vous pose donc pour la 2e fois, reprit le juge, la même question. Si vous ne voulez pas répondre, le greffier laissera un blanc. N'est-ce pas, Bazin, vous entendez? Et nous passerons à autre chose. Je vous demande donc de me dire pour quelle raison vous avez tué votre maîtresse. Est-ce la jalousie? Est-ce qu'elle vous lassait et que vous vouliez reprendre votre liberté? Est-ce encore dans un moment de colère causé par je ne sais quel enfantillage? Dans un moment de jalousie, monsieur le juge. Bien, Mais étiez-vous jaloux abstraitement, si je puis dire, ou d'une personne existante ?
Des deux, monsieur le juge.
Vous avez donc agi dans un moment d'emportement. En rentrant le soir, vous avez trouvé une lettre de votre rival, par exemple, et votre maîtresse vous a avoué qu'elle avait des relations avec un de vos amis. Vous avez alors perdu la tête et vous avez tué.
C'est cela, monsieur le juge.
Mais non, reprit monsieur Grandmanet sur un ton cassant. Ce sont des suppositions que je fais. Dites-moi si l'une d'elles est vraie ou bien s'il y a autre chose. Vous ne comprenez donc pas ?
Lorsque je suis rentrée, Suzy m'a dit qu'elle allait me quitter parce qu'elle aimait un de ses camarades de travail, Harry Paul Donna.
C'est donc parce qu'elle voulait rompre que vous l'avez tué ?
Pardon, interrompit l'avocat, il ne ressort pas du tout des paroles de mon client qu'il a tué sa maîtresse parce qu'elle voulait rompre.
Que ressort-il alors ?
Il ressort, monsieur le juge, qu'il l'a tué parce qu'il souffrait dans son cœur d'homme.
Ah, bien. Je tenais, monsieur le juge, à préciser ce détail. Ma défense, d'ailleurs, reposera sur ce point. Il a tué parce qu'il souffrait.
Si vous voulez, maître, mais en réfléchissant, c'est la même chose. S'il la tue parce qu'elle veut rompre, il est sous-entendu qu'il souffre de cette rupture.
Je préfère, monsieur le juge, qu'il la tue parce qu'il souffrait et qu'on sous-entende parce qu'elle voulait rompre.
Le juge eut un sourire, puis, comme s'il n'avait pas compris la subtilité de Maître Seine, il se tourna vers l'inculpé.
« Vous avez donc tué cette femme parce qu'elle vous faisait souffrir, ou plutôt parce que vous souffriez. Vous étiez malheureux, vous sentiez qu'un jour elle vous échapperait. Alors vous l'avez tuée. Enfin, quand même, lorsqu'on commet un acte de cette importance, il y a un événement, un fait, quelque chose qui vous y pousse. » Ce n'est pas parce qu'on souffre que tout à coup on étrangle quelqu'un, sans quoi tout le monde finirait ici dans ce cabinet.
Rien, monsieur le juge.
Alors, comme cela, sans raison immédiate, vous l'avez étranglé ?
C'est justement, répondit Maître Seine pour son client, ce qui renforce la thèse de la défense. Vous comprenez, monsieur le juge, sa souffrance à lui, il désigna de l'index Pierre, était tellement vraie, tellement profonde, elle datait de si longtemps qu'il a suffi un jour qu'un événement insignifiant qu'il serait bien en peine de vous dire pour que l'équilibre de son être se rompît. Si, à ce moment, son frère, sa mère s'étaient trouvés là, il les aurait tués également.
Charmant.
Ce que je viens de vous dire, monsieur le juge, me paraît l'évidence. N'oublions pas que nous sommes en présence d'un être qui, certainement, d'ailleurs, je me réserve de demander qu'on fasse une enquête à ce sujet, à une lourde hérédité, par le fait qu'il n'a pas su se défendre du geste meurtrier, par ce seul fait, c'est un malade.
Dans ces conditions, maître, mon rôle devient inutile. Ce n'est plus la peine que mes collègues et moi existions. Nous n'avons qu'à nous retirer et céder la place à des médecins. Ils soigneront les criminels.
Le juge d'instruction ôta son lorgnon, en essuya les verres avec le coin de sa pochette, puis, le remettant, dévisagea longuement Pierre Nervray.
« Il ne faut pas, » dit-il en scandant chaque mot d'un petit mouvement de l'index et du pouce joint, « il ne faut pas vous réfugier dans une attitude semblable. Vous me devez de répondre à mes questions. Il ne sort de votre bouche que des monosyllabes. » Ce n'est pas en agissant de la sorte que vous aiderez à la rapidité de l'instruction. Il semble pourtant se dégager de votre personne un désir sincère de vous présenter devant vos juges.
Pierre Nervray ne répondit pas. Ce fut encore Maître Seine qui prit la parole pour lui.
N'oubliez pas, monsieur le juge, que l'inculpé est encore sous le coup des événements extraordinaires qui viennent de bouleverser sa vie. Si mon client possédait tous ses esprits, vous en seriez, je crois, le premier surpris. L'abattement dans lequel il se trouve prouve, au contraire, combien sincère est son repentir.
M. Grandmanet consulta le dossier, puis, en tirant un document, le parcourut avec attention. Finalement, il le posa sur son bureau et reprit.
« En définitive, l'affaire est très simple.
Vous avez tué Suzy Pommier par jalousie. Vous l'avez avoué vous-même. Nous possédons ici, au dossier, le procès-verbal de vos aveux, signé par vous. Il n'y a donc pas lieu pour aujourd'hui de poursuivre plus avant votre interrogatoire. Évidemment, certains points demeurent obscurs. Nous ne pouvons encore nous prononcer sur la préméditation. Un supplément d'enquête est nécessaire. M. Grandmanet se tourna vers les gardes municipaux qui se tenaient vers la porte d'entrée. « Reconduisez l'inculpé !» leur dit-il. Pierre Nervray se leva, se dirigea vers ses gardiens. Mais soudain, il revint sur ses pas. Il était pâle. Un tremblement nerveux agitait ses mains. « Je vous demande pardon, monsieur le juge, » dit-il d'une voix blanche, « mais j'ai une importante déclaration à vous faire. » « Pourquoi ne l'avez-vous pas faite plus tôt ?» demanda M. Grandmanet. « Mon client était sans doute trop ému, » interrompit Maître Seine. « Cette déclaration est très importante, » continua Pierre Nervray, comme s'il n'eût pas entendu ni l'observation qui venait de lui être faite, ni la réponse de l'avocat. « Eh bien, dites vite ce que vous avez à dire, car je suis pressé. » Pierre Nervray, malgré cette injonction, se recueillit un instant. Debout devant le bureau du juge d'instruction, il semblait en proie à un grand trouble. Il était pourtant visible qu'il luttait pour se maîtriser. Tout à coup, il tendit ses deux mains en avant, comme pour une imploration, et d'une voix que l'émotion rendait à peine perceptible, dit « J'ai menti, monsieur le juge, j'ai menti. Je ne suis pas l'assassin de Suzy Pommier. » Jamais, au grand jamais, je n'aurais été capable de commettre un tel forfait. Je suis innocent. » M. Grandmanet, qui avait fermé le dossier de l'affaire Pommier et qui s'était adossé à son siège dans une attitude destinée à laisser entendre qu'il n'attachait pas une grande importance à la fameuse déclaration annoncée par l'inculpé, se redressa brusquement, cependant que Maître Seine, étonné, regardait son client en se demandant visiblement si ce retournement n'allait pas lui être funeste. « Qu'est-ce que vous racontez ?» demanda M. Grandmanet. « Je suis innocent, monsieur le juge, je vous le jure. Ah, si vous saviez comme je souffre depuis 2 jours !»« Mais enfin, si vous êtes innocent, comment se fait-il que vous ayez avoué être l'auteur de ce meurtre ? Cela ne laisse pas d'être singulièrement étrange. Répondez. « Je ne suppose pas que ces aveux vous aient été arrachés par la torture. »« Non, monsieur le juge, monsieur le commissaire Piget a été d'une correction parfaite. »« Nous le sommes tous. Là n'est pas la question. Répondez. »« Je ne me suis chargé de cet horrible crime, monsieur le juge, parce que, dans l'état d'énervement où je me trouvais pendant l'interrogatoire de monsieur Piget, il m'est apparu soudain que j'étais en quelque sorte... responsable de la mort de celle que j'aime par-dessus tout. Je ne comprends pas. Expliquez-vous. Oui, expliquez-vous, surenchérit Maître Seine, un peu dépité de n'avoir pu ménager lui-même le coup de théâtre. Il m'est apparu, continua Pierre Nervray, que si je l'avais vraiment aimée comme je le croyais, elle eût été encore de ce monde. À la fin de la première représentation des deux mondes, elle m'avait supplié de ne pas la laisser seule, elle m'avait supplié de l'accompagner, de rester près d'elle, et moi, hantée par ma jalousie, j'ai cru qu'elle me jouait la comédie, qu'elle avait rendez-vous avec un amant, j'ai cru qu'elle me suppliait de rester près d'elle, la malheureuse, justement pour écarter mes soupçons. J'ai feint alors d'avoir à rentrer chez moi, de ne pouvoir la retrouver avant minuit, dans le seul but de la surprendre avec son amant, qui ne pouvait être à mes yeux que l'acteur Donna. Ah, si j'avais su, si je m'étais douté une seconde de ce qui allait se passer. Mais tout cela ne nous dit pas, observa le juge d'instruction, pourquoi vous avez trompé la justice. Je n'ai pas pensé à la justice, j'ai voulu me punir, j'ai voulu être châtié, quand j'ai compris qu'elle n'avait jamais eu d'amant, et qu'à cause de ma stupide jalousie, elle n'était plus. Il m'est apparu à ce moment que j'étais aussi coupable que le véritable assassin. Ce dernier n'avait fait que la tuer pour la voler. Le vol n'est pas le mobile du crime, observa M. Grandmanet. Ou pour une autre raison, et moi, j'étais en quelque sorte son complice, puisque je lui avais facilité sa tâche. Je méritais donc un châtiment.
Et vous ne le méritez plus aujourd'hui.
Si, je mérite encore un châtiment, mais j'ai réfléchi. Ce châtiment ne doit pas m'être infligé aux dépens de la justice. Le véritable coupable doit être également puni.
Le juge d'instruction ne put réprimer un sourire. Il se tourna vers l'avocat.
Vous n'aviez pas prévu cela, maître. Qu'en dites-vous?
Évidemment, c'est assez surprenant.
Comment, maître? Vous trouvez cela surprenant?
Oui, monsieur le juge.
Cela n'est pas surprenant, c'est tout ce qu'il y a de plus normal.
Que voulez-vous dire?
Il est bien rare qu'un assassin ne revienne pas sur ses aveux. J'y suis habitué. Mais cette fois-ci, je dois dire que ces rétractations me causent un certain plaisir. Comprenez-vous pourquoi, maître?
Non, monsieur le juge.
Parce que vous sembliez prêter à votre client des sentiments d'une élévation que je n'ai jamais rencontrée chez un criminel. Vous voyez, malgré tout, il ne suffit pas d'avoir du feu, de la jeunesse, il faut également de l'expérience dans nos professions.
Pendant que le magistrat parlait, Pierre, immobile, semblait rêver. Une subite douceur se découvrait sur son visage, un instant auparavant si contracté. Ce n'était plus le même homme. Il envisageait déjà son retour chez lui. Cette nuit qu'il venait de passer dans un cachot ne serait plus qu'un mauvais rêve. L'avant-goût de la captivité qu'il venait d'avoir lui avait complètement ôté le désir de se punir d'un crime qu'après tout, il n'avait pas commis.
« Je m'excuse, monsieur le juge, » dit-il après quelques instants de réflexion et non sans avoir préalablement pesé ses mots. « D'avoir retardé quelques heures la marche de la justice par mon attitude, mais vous comprendrez mon geste quand vous saurez que Suzy Pommier était toute ma vie. »«
Oui, » répondit avec un petit sourire ironique M. Grand Manet, « je comprends très bien votre geste, mais ce n'est pas à lui que je pense. » Ce que je comprends particulièrement bien, c'est que vous soyez revenu sur vos aveux. C'est une chose tellement naturelle. À la réflexion, on se rend compte qu'il vaut toujours mieux compter sur le doute que sur l'indulgence, n'est-ce pas ?
Pierre Nervret ne comprit pas nettement ce que voulait dire le juge d'instruction. Il répondit cependant
« En effet. »
« Oh, alors dans ce cas, si vous êtes vous-même de mon avis, cela simplifie tout. » Il ne nous reste plus qu'à nous séparer.
Monsieur Grand Manet s'adressa aux gardes municipaux.
Dites donc, mes braves, vous pouvez reconduire l'inculpé.
L'inculpé ? Répéta machinalement Pierre.
Monsieur Grand Manet ne jugea pas utile de répondre. Il se plongea dans la lecture d'une lettre tout en tapotant du doigt son bureau.
L'inculpé ? Répéta encore Pierre.
Calmez-vous. Fit maître Seine.
Monsieur le juge n'a donc pas compris ce que je viens de lui dire ?
Si, j'ai compris, répondit monsieur Grand Manet. J'ai pris bonne note de votre déclaration. Je vais faire quelques vérifications et ensuite nous verrons s'il y a lieu de tenir compte de votre rétractation.
Vous vous imaginez peut-être, monsieur le juge, que je suis, moi, Pierre Nervret, l'assassin de Suzy Pommier ?
Je n'ai aucune imagination, sachez-le. Je ne m'en tiens qu'au fait précis. J'ai ici, devant moi, dans ce dossier, le procès-verbal de vos aveux, signé de vous-même. Vous ne voudriez tout de même pas que je n'en tienne aucun compte ?
Mais je suis innocent, monsieur le juge !
Le visage de Pierre Nervret s'était métamorphosé. Ses yeux brillaient. Les pommettes brûlantes, le jeune homme semblait en nage.
« Je suis innocent ! Je suis innocent !» répétait-il comme un fou. « J'ai menti, vous comprenez ? J'ai menti pour me punir d'une faute que ma conscience seule a le droit de me reprocher. Mais je vous jure, sur ce que j'ai de plus sacré au monde, sur mon honneur, que jamais je n'ai même songé à... »
Reconduisez l'inculpé, fit avec brusquerie cette fois le juge d'instruction aux gardes municipaux, qui, devant l'afflux des paroles de l'assassin, avait hésité à exécuter l'ordre. Cette fois, ils comprirent qu'ils devaient obéir. Ils s'approchèrent de Pierre, qui gesticulait toujours en protestant de son innocence, et, le saisissant par le bras, voulut l'entraîner. Mais, d'un mouvement brusque, le jeune homme se dégagea.
« C'est un abus de pouvoir » hurla-t-il.
Vous arrêtez un innocent. Cela vous coûtera cher.
Calmez-vous, calmez-vous, lui dit l'avocat. N'aggravez pas votre cas. Je vais m'occuper de vous, mais il faut laisser le temps de faire les choses.
Je suis victime d'une injustice. Au secours, au secours!
Se mit à crier encore plus fort Pierre Nervray. Mais il n'eut pas le temps de continuer. Brutalement saisi à la fois par les bras et les poignets, il fut en un instant entraîné hors du bureau.
« Quelle énergumène !» fit le juge en poussant un profond soupir de soulagement. « Je commençais à appréhender qu'il ne perde la raison, ou plutôt qu'il ne feigne de la perdre, car, écoutez-moi bien, c'est la marche logique. » Lorsque la rétractation des aveux ne leur apporte rien de favorable, les assassins ont pour coutume de se rabattre sur la folie. Vous voyez, nous n'en avons pas encore fini. Après le supplément d'enquête, il nous faudra encore désigner 3 médecins pour examiner votre client. Mais si le juge d'instruction se plaisait à ironiser, il n'en conservait pas moins un visage soucieux. Il était obligé de convenir que les choses ne s'étaient pas passées comme il aurait désiré au cours de ce premier interrogatoire. Il songeait au communiqué qu'il devait remettre au journaliste qui l'attendait impatiemment. Si, quant à lui, il n'avait aucun doute sur la culpabilité de Pierre Nervray, il n'en devait pas moins tenir compte de l'opinion publique. Qu'allait penser le monde de l'attitude nouvelle de l'assassin de Suzy Pommier ? Certains journaux n'avaient-ils pas déjà insinué que Pierre Nervray payait pour d'autres, que ses aveux n'étaient rien moins que suspects, qu'ils étaient destinés, sinon à sauver de l'échafaud le véritable coupable, du moins à gagner du temps. M. Grandmanet alluma un cigare, puis, après un long silence, dit à Maître Seine. « Entre nous, qu'est-ce que vous pensez du changement d'attitude de Pierre Nervray ? Croyez-vous que ses aveux aient été réellement provoqués par le désir de sauver le coupable ? Il m'est difficile de vous répondre. La déclaration de mon client modifie mon plan de défense. Comme vous, je suis un peu surpris et, avant de prendre une décision, je demande à réfléchir. Je crois qu'on peut conclure de ce premier interrogatoire que, de toute façon, Pierre Nervray a trempé dans l'affaire. Ou il est coupable, ou il ne l'est pas, et il a joué la comédie pour égarer la justice. Dans ce cas, il faudrait chercher l'assassin parmi les personnes pour qui le prévenu éprouve de l'amour, sa femme par exemple. Comment expliquer alors qu'il ait si brusquement changé d'attitude ? Psychologiquement, seul avec lui-même, dans un cachot, il a pris peur. Le juge d'instruction, pour la troisième fois, feuilleta le dossier de l'affaire Pommier. Soudain, son calme l'abandonna. « C'est un peu fort !» cria-t-il. « Cette enquête a été menée en dépit du bon sens. Ce commissaire Pigé a agi comme un enfant. Une affaire n'est jamais terminée aux aveux. C'est toujours la même chose. Ces messieurs de la police judiciaire ne songent qu'à leur gloire personnelle. Il leur faut leur nom dans les journaux. Le travail modeste, consciencieux, cela ne les intéresse pas. Ce qui leur plaît, c'est la publicité, les félicitations, les augmentations de salaire, de grade. Le reste, ils s'en moquent. Le juge d'instruction n'a qu'à se débrouiller. Eh bien, nous allons voir. » M. Grandmanet appuya à plusieurs reprises sur un timbre. « Allez, de ce pas, dit-il à l'employé qui venait de répondre à l'appel, à la police judiciaire et ramenez-moi le commissaire Pigé. Vous lui direz que c'est urgent et que j'ai à lui parler. » Dès que l'employé eut disparu, il se tourna vers Maître Seine. « Je vais lui demander quelques éclaircissements sur la manière dont il a obtenu les aveux de Pierre Nervray, car tout cela me paraît bien étrange. N'est-ce pas votre avis, Maître Seine ?